La maison, mon 4x4. La maison, mon 4x4. L'incinération, c'est bon pour les poumons.
Le réchauffement climatique, c'est vrai. Et après, le soleil va taper plus fort. Et on va voir la grippe aviaire.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Écoforum Regard sur l'environnement de Radio Grenouille. Alors aujourd'hui, on va parler de cantine bio. On est en présence de deux invités, des parents d'élèves, donc Martine et Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment vous êtes organisés exactement? Combien est-ce que vous êtes à lutter pour le développement des cantines bio?
Alors aujourd'hui, on est un collectif de citoyens, pas forcément des parents d'élèves. Qui n'est pas organisé dans une association. On est vraiment pour l'instant un peu encore désorganisé, mais très motivé. Ce sont des écoles de tout Marseille, de tous les quartiers de Marseille qui nous ont rejoints. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent. Donc après, il y a les membres vraiment actifs et il y a ceux qui se mobilisent quand il faut.
Et depuis combien de temps est-ce que vous avez commencé un petit peu ce combat ?
Ce combat a commencé il y a plus d'un an, voire un an et demi, avec effectivement des gens qui changent au fur et à mesure. Mais ça fait déjà plus d'un an qu'il y a des personnes qui s'inquiètent pour ce sujet.
Et justement, alors, quelles sont vos revendications ? Est-ce que c'est seulement sur le contenu de l'assiette ou... Qu'est-ce que vous vous demandez, Thomas ?
Alors, les revendications, elles sont plus larges. En fait, les parents qui se mobilisent depuis plusieurs années même se posent un peu des questions sur le temps cantine, en fait, hein, globalement, sur comment sont pris en charge les enfants, comment ça se passe pendant les deux heures, là, entre midi et deux. Donc, il y a le côté animation et, en effet, il y a aussi le côté alimentation. Qu'est-ce qu'on met dans les assiettes de nos enfants ?
Donc, au fond, est-ce que vous ne gérez pas aussi un peu l'après-repas, finalement, le temps comment ils organisent le temps de l'après-repas, ce qu'ils font après ?
Tout à fait, oui. Ça, c'est une des compétences que la mairie doit assurer, que la ville de Marseille, pour la gestion du temps cantine. Donc, une de nos revendications, de nos souhaits, en fait, c'était d'améliorer ce temps cantine, parce qu'aujourd'hui, il y a des tatas qui s'occupent des enfants pendant le temps du repas, mais après, des fois, les enfants sont dans la cour et il y a moins d'encadrement. Alors, dans certaines écoles, il y a des animations qui sont proposées, mais ce n'est pas sur toutes les écoles de Marseille, puisqu'il y a plus de 300 cantines à Marseille. Et il y a peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'écoles dans lesquelles sont proposées des animations. Donc ça, c'est un de nos axes de revendication auprès de la ville, c'est d'améliorer ce temps d'animation. Voilà. Aujourd'hui, nous, on s'est un petit peu plus focalisé sur le côté alimentation, puisqu'il y a le renouvellement d'une délégation de services publics, donc d'un gros contrat qui va engager la ville avec des prestataires sur les 7 ans à venir. Donc c'est vrai que c'était un peu cette opportunité qui nous a axé là depuis un an maintenant sur le côté plus qualitatif et qu'est-ce que nos enfants ont dans leur assiette.
Alors, justement, quelle est la situation actuelle à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a beaucoup de cantines sur Marseille qui proposent du bio déjà ?
Alors, en fait, comment est organisée la restauration scolaire à Marseille ? Il faut savoir qu'il y a 300 cantines sur les 400 écoles à peu près de Marseille. Ça représente 45 000 repas par jour, donc c'est assez colossal.
Assez important, oui.
Et ces 45 000 repas sont produits par deux cuisines centrales. Donc il y a deux grosses cuisines à Marseille qui fournissent ces 45 000 repas. Ces cuisines, elles sont gérées par délégation, par des sociétés privées, Avenance et Sodexo, depuis maintenant 17 ans. Donc il y a eu différents contrats qui ont été renouvelés, mais c'est toujours ces deux prestataires.
C'est les deux seuls prestataires existants sur Marseille ?
Alors, non, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres
qui sont moins importants.
Qui sont de taille moins... Enfin, il y en a qui sont de taille aussi importante, mais qui n'ont jamais obtenu le contrat. Il y en a de taille peut-être plus réduite, mais qui n'ont pas réussi à accéder à ce marché conséquent. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ces deux structures qui fournissent l'ensemble des repas à Marseille.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, si vous connaissez la situation des cantines bio dans d'autres villes, finalement ? Parce que si à Marseille, c'est pas trop développé, est-ce que c'est mieux fait ailleurs ?
Alors, on a quelques exemples, en fait. d'autres villes qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Par exemple à Saint-Étienne, avec Avenance, donc un des deux prestataires qui est à Marseille, il y a 2500 repas par jour, donc c'est beaucoup moins effectivement. Mais là, ils ont développé un vrai projet de cantine bio, mais bio qui est fourni régionalement. Enfin, ils se fournissent régionalement, c'est-à-dire du bio local de saison. Et ce n'est pas pour ça que ça a entraîné une augmentation du prix. Hein. Ils ont même diminué le prix des repas en se posant les bonnes questions, en revoyant la façon dont sont formés les repas. À Lyon, il y a 16 000 repas quotidiens. C'est aussi la société Avenance. Et là aussi, depuis 2004, ils essayent de proposer des menus composés de produits issus de l'agriculture biologique. Et en 2010, c'est 26% de la totalité des plats des mets qui sont servis. Il y a Lons-le-Saunier aussi en régie directe. Donc là, c'est une autre façon de fonctionner, c'est-à-dire que c'est la mairie qui gère ça. Là aussi, il y a une vraie volonté de purifier les eaux autour de la ville, donc de soutenir une agriculture locale bio, de la créer et de lui offrir des débouchés. Il y a aussi Toulouse en régie directe, à Brest il y a Sodexo avec 5500 élèves et il y a plus de 20% de produits bio par exemple. Donc on voit que c'est possible.
Que c'est possible finalement.
Et que c'est possible avec ces prestataires-là. Donc qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi à Marseille on n'a pas ça et pourquoi dans les autres villes on l'a?
Oui, ben, on va un petit peu y revenir, mais... à un moment donné, vous aviez délivré un diplôme du zéro bio à Monsieur Gaudin, avec comme note « peut mieux faire ». Est-ce que vous diriez que la situation a un peu évolué depuis ou...
Donc, on a fait ça en 2009, au moment où le WWF a lancé sa campagne « Oui au bio dans ma cantine ». Donc on s'est mobilisé, on s'est présenté devant Monsieur Gaudin et on lui a remis ce diplôme parce qu'effectivement on avait comparé, c'est là qu'on commençait à découvrir un peu le sujet et qu'on avait découvert qu'effectivement il n'y avait pas du tout de bio alors qu'ailleurs il y en avait. En 2010, le WWF a un peu laissé tomber cette campagne et là ils sont en train de la relancer actuellement, donc bien sûr on est fortement... se joint fortement à cette mobilisation-là. Et aujourd'hui, le cahier des charges que la mairie vient de remettre aux prestataires, donc cahier des charges, c'est la commande qui a été remise fin 2010, n'a aucun objectif précis, chiffré, en matière de produits locaux, bio, de saison, frais. Le cahier des charges, il n'a absolument pas évolué. Alors qu'on a essayé de tenter de travailler avec la mairie pour leur prouver que oui, on peut le faire et que les enfants et les parents sont concernés par ce sujet.
Alors justement, qu'est-ce que contient ce cahier des charges? Comment il a été construit?
Bon, le cahier des charges, c'est un document assez complexe. Enfin, il y a beaucoup d'éléments puisqu'il s'agit de déléguer un service à un prestataire. Donc il y a tout un cahier des charges technique sur comment doivent fonctionner les cuisines et le côté entretien, maintenance. Mais c'est vrai que sur l'aspect qualitatif, donc le cahier des charges, il fixe un certain nombre de composantes. Enfin, c'est-à-dire que dans un repas, il y a cinq composantes entre l'entrée, les plats, les desserts. Et après, il fixe aussi des grammages. Enfin, bon, il y a une réglementation ou des recommandations qui sont reprises dans ce cahier des charges, mais qui sont des recommandations assez larges. Mais il n'y a aucune exigence, comme on disait, en termes de produits de saison, de produits locaux. Alors sans parler du bio, c'est tout ouais. Juste évoqué, une intention, c'est quelques lignes dans un document qui fait 90 pages hors annexe. Donc c'est très, très, très vague.
Effectivement, dans le cahier des charges, on a les fournisseurs pourront donner des produits soit bio, soit de quatrième ou cinquième gamme. Ce qui veut tout dire et rien dire. C'est très, très libre.
Donc, c'est-à-dire que le quatrième gamme ou cinquième gamme, c'est ce qu'il y a de plus mauvais au niveau de la qualité.
Oui, enfin, plus mauvais. On va dire, c'est le...
Voilà, c'est le moins exigeant. C'est jamais mauvais. Enfin, on va dire que Sodexo et Avenance, forcément, ce sont des sociétés qui sont très suivies en matière d'hygiène, en matière de respect des règles, etc. Donc là, il n'y a pas de problème. Ils sont certifiés ISO 14001, 9001, d'accord, etc. Ouais. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, tout ce qui nous concerne, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on met dans l'assiette pour éduquer les enfants et pour soutenir l'agriculture locale. Parce qu'on nous répond toujours oui, mais il n'y a pas assez d'agriculteurs bio qui puissent fournir un tel marché. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on conserve un marché aussi gros qui est partagé juste en deux ? À Paris, par exemple, ils ont séparé les marchés en plusieurs petites parties pour justement permettre à plus de prestataires et plus d'agriculteurs, des petits agriculteurs, de pouvoir répondre à ça. Et deux, on peut vraiment fournir de l'agriculture biologique en soutenant de nouveaux agriculteurs.
Et est-ce que ça vous fait pas peur aussi un petit peu que le contrat là soit quand même réalisé pour 7 ans? Ça veut dire que tout se joue pour quand même une grosse durée, quoi.
Oui, c'est... tout à fait. Oui, ça fait un peu froid dans le dos de dire que voilà, sur les 7 ans à venir, on a constaté que les 17 ans précédents, il n'y a pas eu de... Il n'y avait pas d'exigence sur cet aspect saison, qualitatif, bio et tout ça. Et que malgré toutes les sensibilisations qu'on a pu faire en 2010 auprès des élus, auprès des services, rien n'a été repris dans le cahier des charges. Donc ça pose un peu des questions sur la réelle volonté politique pour la deuxième ville de France de s'inscrire dans une autre démarche de développement durable et d'avoir une approche un peu plus globale de l'alimentation, parce que comme on disait, il y a aussi la question des filières, la question de l'eau aussi. Ça touche beaucoup de choses. Quand on parle de bio, alors nous, on revendique pas que du bio, c'est pas la seule exigence, mais c'est une approche globale de tout un système, en fait.
Alors, à votre avis, pourquoi les politiques ne s'intéressent pas forcément à ça ? Est-ce que vous pensez que ce sont les préoccupations des citoyens qui sont tournées vers d'autres choses ? Est-ce que vous...
Dans d'autres villes, les politiques, ce sont eux qui ont initié ces démarches. Il y a certaines villes, effectivement, où des parents font comme nous, des citoyens, pas seulement des parents, parce qu'on peut aussi s'intéresser aux petits-enfants ou aux enfants du voisin, se mobilisent pour faire avancer le sujet. Mais il y a beaucoup, beaucoup de villes où, en fait, c'est une volonté politique avant tout. Donc après, pourquoi est-ce que certains politiques s'engagent dans le développement durable et d'autres pas ?
La question est large. Peut-être que je vais faire intervenir le président d'Ecoforum, Victor Hugo Espinoza, qui vient de nous rejoindre.
Oui, je vais peut-être... Ces thèmes qui m'intéressent beaucoup, du point de vue un petit peu dire philosophique. Pourquoi je dis philosophique ? Parce que ce n'est pas un thème qu'Ecoforum a trop participé, malgré que la dernière fois... Nous, on était à l'origine de ces diplômes pour M. Godin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de façons de faire pression. Mais on avait soutenu le collectif Cantine Bio, qui peut-être... Mais là, depuis un certain temps, en tant que co-forum, je me pose beaucoup de questions s'il ne faut pas donner un petit coup de pouce à tout ça et faire pression politique. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que les politiques, ils font des choses. Beaucoup de fois, il faut dire pourquoi ils ne les font pas. Il faut trouver premièrement pourquoi ils ne les font pas. Ils ne les font pas, première chose, parce qu'ils ont peur que les enfants n'aiment pas. Voilà, c'est la première chose. C'est une espèce de... Pourquoi ils ont peur ? Parce que beaucoup de fois, beaucoup d'enfants ne connaissent même pas le bio. Ils sont tellement habitués à manger dégueulasse, moi inclus d'ailleurs, et dégueulasse quand je dis pas là, on est tellement habitués que des fois, si vous allez manger un poulet bio, vous allez trouver pas bon. Parce qu'il y a de la trop de goût.
Donc,
c'est un problème, si vous voulez, qui implique... Une bonne qualité, ça veut dire qu'on va faire des bio, mais des bons bio et des bio qui plaisent. Alors, et deux, il faudrait aussi de l'éducation.
Oui, voilà, justement, est-ce que le frein au développement, ce ne serait pas un petit peu le fait qu'il y a beaucoup d'étapes, finalement, pour arriver à une cantine bio ? Ça demande pas mal de sensibilisation et c'est quand même fastidieux, c'est un travail à réaliser. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait peur, le temps à passer pour le changement
Non, je ne crois pas. Excusez-moi, juste une 30 secondes, je ne crois pas du tout. Quand vous avez la volonté politique, tous les hommes politiques qui se sont mis au bio, ils ont eu le retour à l'investissement. Je me répète, qu'est-ce que c'est le retour à l'investissement politique? Ils ont été réélus, ils ont été, vraiment, cette variable a été importante. C'est qu'il faut bien comprendre, comme il a dit tout à l'heure les deux personnes qui m'ont précédé, il faut les faire pas rapidement, pas d'un seul coup. Les choses, ils ne peuvent pas se faire violemment. Si M. Godin, il avait vraiment la volonté politique, il pourrait fixer une obligation 10%, 20% bio, ou que chaque école, une fois par semaine, au moins, une obligation de mettre des produits bio. Et pire encore, quand vous voyez l'agriculture qui aujourd'hui est en train de plus en plus avoir soin de quelque chose, l'agriculture locale, il pourrait avoir un bénéfice énorme. Imaginez-vous 45 000 repas, combien d'agriculteurs locaux ils pourraient bénéficier de pouvoir vivre et pas faire ce qu'on est en train de faire maintenant et est lié justement à ces surexploitations qui sont en train de disparaître. Tous nos hectares liés à l'agriculture sont en train de disparaître. Donc vous voyez, si on fait la volonté politique, on règle aussi des problèmes qui sont annexes mais qui sont très importants.
Il faut savoir qu'il y a seulement deux régions en France et dont la région PACA qui sont largement au-dessus de la moyenne en matière d'agriculture biologique. Donc il faut pas non plus dire qu'il n'y a pas de fournisseurs autour de la ville de Marseille.
Et malgré ça, on
nous dit pas. Ce n'est pas possible et ce n'est pas vrai puisqu'ailleurs c'est possible. Donc pourquoi?
Alors qu'il n'y a pas l'agriculture proche.
Voilà, il suffit pas de dire il y a un problème. On ne trouve pas de solution, c'est de trouver une solution. La solution, c'est d'aider les agriculteurs à passer au bio, enfin au naturel, on ne devrait même pas dire bio, on devrait dire juste une agriculture naturelle, en les soutenant. Donc je pense que ça, c'est aussi une action politique forte.
Thomas. Mais voilà, après c'est la question de l'organisation de filières, c'est une question plus globale. Alors, est-ce que la ville ne se sent pas d'organiser ça? Donc c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres partenaires, l'État, il y a des fédérations d'agriculteurs... Voilà, il y a tout un travail plus global à faire, peut-être même aussi avec d'autres institutions, la région ou le département, pour organiser des filières. Mais la production, il y a le potentiel, notamment en effet dans notre région PACA, où il y a une grande activité maraîchère. Et donc, il est vraiment possible de mettre en place des filières locales. Après, ça peut être, pas forcément du bio, mais au moins des filières locales. Mais ça demande une structuration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mairie, elle se cache un peu derrière ça en disant « c'est pas possible, on peut pas produire pour 45 000 repas des milliers de tonnes de carottes ». Alors que bon, c'est une question de volonté et d'organisation.
Et sans compter, excusez-moi d'insister sur quelque chose, sans compter qu'on parle pas d'un problème de fond très grave, c'est que les aliments, on a des conservateurs. Les conservateurs, c'est le cancer de demain, c'est des produits chimiques très mauvais. Et chaque fois que vous utilisez l'agriculture intensive et l'agriculture, vous êtes en train de préparer des cancers de demain. Donc oui, l'agriculture peut-être est propre, il a l'hygiène qu'il faut, mais c'est une bombe à retardement. Donc les conservateurs, c'est la pire des choses. Il faut commencer à acheter local pour avoir le moins possible de conservateurs. De conservateurs, il sera moins de sous pour les trous de la sécurité sociale. Donc, vous voyez, tout est lié.
Voilà, en fait, l'une de nos demandes, c'est la transparence. C'est la transparence au niveau du cahier des charges, parce que déjà, il y a beaucoup de villes qui le mettent en ligne. Donc, on peut consulter ce cahier des charges pour savoir quelle est la commande de la ville.
Et ce n'est pas le cas à Marseille.
À Marseille, même quand on le demande, pour l'instant, on ne l'a jamais obtenu. Ensuite, la transparence au niveau du prix. Il y a une partie que les parents payent, il y a une partie que la mairie paye, mais la transparence aussi au niveau du prix. Comment est constitué le prix? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a les deux cuisines centrales qui ont été amorties. Donc, il n'y a plus de réel investissement au niveau de ces cuisines centrales. Du coup, ce gain de budget, il passe où? Est-ce que ça veut dire que la mairie diminue le budget qu'elle réservait
aux cantines?
Ou est-ce que ça veut dire que ce budget, elle va le mettre dans la qualité? C'est ce que d'autres villes ont décidé. Donc, où est-ce qu'il passe ce budget? Ça, on aimerait bien savoir, ce budget qu'on a gagné. Ensuite, on voudrait aussi la transparence, justement, au niveau des ingrédients. Quand vous allez au supermarché, vous avez la composition du repas. Là, vos enfants, ils vont manger... Et vous savez pas la provenance, vous savez pas ce qu'il y a comme additif, comme conservateur, alors qu'on sait que c'est dangereux, et que justement, si ce sont pas des produits frais, ce sont des produits transformés comment? Voilà, on voudrait avoir juste des réponses. Donc ça, de toute façon, les prestataires le donnent à la mairie, les parents, ils pourraient aller quelque part sur un site, pour le consulter.
juste un mot pour compléter. Quand tu dis transparence, il y a aussi la traçabilité.
Oui.
La traçabilité, ça veut dire qu'on peut, nous, parents, n'importe qui, il peut aller consulter ces tomates, ils viennent de où, on
voilà,
fait une traçabilité.
Oui, c'est ça un peu ce qu'elle disait, oui. Alors, pour revenir un peu, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, en fait, quelle est votre démarche, comment vous faites, est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour commencer à aller vers une cantine bio? Est-ce que vous allez rencontrer les différents acteurs du bio, les agriculteurs? Est-ce qu'il y a une organisation, un processus à suivre?
Oui, alors bon, on rappelle que nous, on est des parents, donc c'est vrai qu'on a tous aussi nos activités, nos enfants. Voilà,
c'est un engagement de plusieurs parents et
d'autres parents qui nous soutiennent par des signatures de pétition. Donc on sait qu'il y a des personnes derrière qui nous écrivent aussi pour nous soutenir et nous encourager. Mais en effet, oui, on a pris des contacts avec des fédérations d'agriculture, d'agriculteurs, avec différents services. Qui sont plus ou moins en lien avec cette problématique de la restauration scolaire, avec aussi des gens un peu plus experts sur la question, Monsieur Durèche, qui est un consultant spécialisé là-dedans, avec les associations de restaurateurs municipaux. On a pris pas mal de contacts avec différentes structures, organisations, et en leur demandant des conseils, en leur demandant des informations, des soutiens, pour essayer justement de faire un peu pression sur la ville de Marseille et ses élus pour vraiment s'engager dans cette démarche. Alors on avait eu quelques... En juin, là, lors du conseil municipal qui a décidé le renouvellement du contrat, il y avait eu quelques intentions qui avaient été apportées par les élus, mais on se rend compte... Enfin, on est vraiment déçus sur le cahier des charges qui a été proposé aux prestataires aujourd'hui, quoi.
D'accord.
Et c'est vrai que sur la transparence, c'est une de nos revendications. On voudrait avoir accès à plus d'informations. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule instance où éventuellement les parents pourraient être représentés. C'est les commissions MUNU qui se réunissent 3 fois par an avec la mairie et les délégataires pour discuter un peu du contenu des assiettes. Mais la mairie s'appuie uniquement sur les fédérations de parents d'élèves structurées. Donc il y en a 3 à Marseille. Donc après, les autres parents qui sont en fait les usagers de ce service, on peut voir à la parole, quoi.
Donc finalement, plus de transparence. Alors Victor Hugo, vous voulez rajouter
quelque
chose ?
Oui, juste des mots, que quand des fois les fédérations des parents, ils ont tellement d'autres problèmes que le problème bio lui-même, des fois ça les échappe ou ils ont besoin de savoir plus, comme vous êtes plus informés, donc vous savez ce qu'il faut faire. Des fois, à haut niveau dans les fédérations, les gens ne savent pas trop la problématique, donc ils ne vont pas la défendre. Donc moi, plus je regarde, je me rappelle l'année dernière, quand le collectif bio m'a téléphoné, les enfants, ils ont fait grève, vous savez qu'ils n'ont pas mangé à la cantine, et ces jours-là, ils se sont mis dehors, dans la cour, ils ont mangé bio. Et donc ça a été sensationnel, je me rappelle que les parents m'ont appelé pour se faire entendre, ils ont fait un tabac médiatique. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de fois, la personne qui se met à faire de la résistance, qui se met à faire de la pression pour faire quelque chose, il n'a pas les armes. Et c'est là qui est intéressant, se rencontrer entre ceux qui veulent se battre et ceux qui ont l'habitude à faire des choses. Et je pense, au fur et à mesure que je vous écoute aussi, je commence à avoir envie de vraiment d'aller plus loin dans ce dossier, que je pense qu'avec une bonne pression, je pense qu'on peut avancer, parce que tel comme vous l'avez dit, et de partout, il commence à se faire, de partout. Pourquoi pas à Marseille ?
Et il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, enfin les fédérations de parents d'élèves, quand même la FCPE est un partenaire vraiment officiel de la campagne Oui au bio dans ma cantine du WWF. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont pris conscience, qu'ils ont décidé de s'engager. Après, bon, va falloir voir jusqu'où ils vont. Le WWF au niveau national nous a contactés aussi parce que forcément on est la deuxième ville de France. Donc s'ils font une campagne Oui au bio dans ma cantine et qu'ils ne s'occupent pas de
la deuxième ville de France,
c'est quelque part qu'on a oublié une grande partie de la population. Donc ils veulent nous soutenir aussi. Eux, ils ont une action qui est plutôt en juin. Pour nous, ce sera trop tard parce que c'est là maintenant, entre janvier et avril, qu'il y a une négociation. Les prestataires ont fait leur offre, mais il y a encore une négociation entre la mairie et eux. Donc c'est à ce moment-là que maintenant, les parents, les citoyens peuvent dire... moi, je suis concernée par ce sujet et je veux intervenir. Donc, c'est maintenant. C'est pas...
Et est-ce que le WWF va vous aider quand même dans vos actions avant sa campagne
Oui, oui. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit, qu'ils allaient nous mettre aussi en relation avec d'autres parents, par exemple à Paris 16e, où ils ont aussi un problème, histoire de coordonner nos actions.
Juste une seconde sur le WWF. C'est vrai que ce sont des machines tellement grosses, ils sont 50 salariés. Beaucoup de fois, ils lancent des choses, mais ils n'ont pas la proximité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les réseaux de proximité. Donc, attendre des WWF, bien qu'ils aiment bien, j'ai travaillé pour eux, ils sont mes amis, et des fois, ils n'ont pas... Il faut des gens sur le terrain. Donc, quand vous êtes sur le terrain, bien sûr que là, il va y avoir des choses. Et moi, je pense qu'il faut faire quelque chose très vite et on fera quelque chose.
Donc, nous, une de nos prochaines actions là, pour le collectif Changeons la cantine, comme Mme Casanova, l'élu, n'a jamais souhaité nous rencontrer, en expliquant qu'elle recevait les structures de parents d'élèves existantes à Marseille. Donc, du coup, on est en lien là, avec les structures, FCPE, PEP, et on va essayer de monter un rendez-vous avec Mme Casanova très prochainement, avec ces structures, pour pouvoir discuter de ce sujet avec elle en direct.
Bon, et alors, maintenant, enfin, j'aimerais bien qu'on aborde quand même une question qui me paraît assez fondamentale, puisque on dit beaucoup, bon, vous nous avez donné quand même un exemple, un contre-exemple de ça, mais on dit beaucoup que le bio, ça pose un problème de surcoût. Alors, pourquoi on dit beaucoup ça, finalement? Parce que, enfin, les aliments bio sont plus chers
Si vous avez moins de subventions, forcément, vous êtes obligé d'être rentable quand même quelque part. Donc, effectivement, ce n'est pas l'agriculture biologique qui a le maximum des subventions. C'est l'agriculture traditionnelle, on va dire. Enfin, ce qui ne devrait pas être appelé comme ça.
L'agriculture qui pollue.
Voilà, l'agriculture qui pollue. Et de l'autre côté, l'agriculture naturelle. Et en fait, donc, effectivement, il y a un peu plus aussi de main-d'œuvre. Donc oui, il faut payer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on achète ce genre d'agriculture, ça rémunère. On entend partout qu'il y a tous les jours des agriculteurs qui ferment, qui n'arrivent pas à vivre parce qu'ils vendent à perte. Ça, c'est juste une aberration. Qu'est-ce qui est le métier le plus important au monde? C'est le métier d'agriculteur. C'est pas d'être footballeur. C'est d'être agriculteur, parce que demain, quand... vous connaissez, hein, la cigale et la fourmi, vous avez bien chanté, et bien dansez maintenant, l'hiver est arrivé, il n'y a plus rien à manger. Donc c'est ce qui va nous arriver. Donc l'agriculture bio est effectivement plus chère parce qu'il y a moins de subventions, mais ce n'est pas pour ça que forcément ça se traduit par une augmentation du prix que les parents payent. Il y a des tas de villes qui ont décidé de prendre ça à leur charge, et après, en revoyant justement, à partir du moment où la cuisine a été rentabilisée, il n'y a pas de raison que ce soit plus cher, en revoyant un peu les composantes, donc on arrive à faire baisser les coûts. Donc, et en plus, la part de la nourriture dans le coût global, elle est au maximum de 50%. Après, il y a toutes les charges derrière de personnel, de structure, de logistique. En diminuant les transports aussi, on peut faire baisser les coûts. Donc si on fait du local, on baissera aussi les coûts.
Et finalement, est-ce que vous avez l'impression que les parents d'élèves sont prêts quand même à accepter le changement vers une cantine bio, ou est-ce qu'ils ont l'air assez indifférents globalement?
Non, mais déjà les parents, déjà il faut que les parents, nous, pareil, il y a 2 ans, on ne savait pas tout ça.
Ouais.
Il faut que les parents comprennent comment ça fonctionne. Le combat au départ, c'était plus contre Sodexo ou contre Avenance.
Je peux peut-être juste dire que les parents... Aujourd'hui, je pense que les gens... L'écologie a beaucoup avancé. Les gens, je pense qu'ils savent qu'aujourd'hui, manger des golas, manger des produits qui viennent de très loin avec des conservatoires, c'est pas bon pour eux, donc c'est pas bon pour ses enfants. Donc ils le savent déjà. Et comme ils le savent, on est tout à fait prêt maintenant à que tout le monde se mobilise. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour qu'il y ait une mobilisation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vois une conscience, on les voit d'ailleurs pas les supermarchés, on les voit partout, les gens commencent à avoir une demande bio. Il n'existait même pas des rayons bio. Allez voir maintenant partout, il y a des rayons partout, il commence à se développer, sans compter les AMAP, les associations de maintien des agricultures paysannes. Bon, tout ça, et sans compter, que vous n'avez pas dit, mais que c'est très important à dire, que si vous savez, dans 50 ans, si on ne fait rien, il n'aura même pas un mètre carré dans la région PACA des surfaces cultivables. Pourquoi ? Parce que la pression foncière est telle que, bon, vous voyez, tout est lié. Donc c'est pour ça que le bio, c'est une entrée qui est très, très, très importante.
Moi, je ne pense pas qu'il y ait de parents qui soient contre le bio ou une agriculture de saison locale.
Peut-être pas contre le voilà. bio, mais contre donc, le fait d'avoir à y participer.
Donc voilà, en effet, le seul frein, ça pourrait être que le prix augmente sous prétexte qu'on améliore la qualité. Bon, ça, il faudrait en discuter, mais c'est vrai que tous les parents ne peuvent pas accepter forcément un surcoût. Mais comme on disait tout à l'heure, dans le cas, en tout cas, de la ville de Marseille, il y a plusieurs opportunités aujourd'hui qui permettent d'envisager une amélioration qualitative à coût égal. Et après aussi, c'est une question de revoir ce système de 5 composantes. On peut peut-être réduire les proportions de protéines animales. Aujourd'hui, on est encore à une viande tous les jours ou du poisson. Enfin voilà, on peut réduire les quantités. Il faut voir la quantité de déchets qui sont produites entre guillemets à l'issue des repas, parce que soit les quantités sont trop importantes ou soit les aliments ne conviennent pas et donc du coup on jette. Donc peut-être qu'on peut adapter ces proportions, comme on disait, la question du transport, si c'est local on réduit les coûts, enfin voilà. Donc c'est vraiment revoir une organisation, la composition des menus, et à coût égal on peut faire meilleur en termes de qualité
pour une alimentation bien équilibrée.
D'ailleurs il vient de dire une viande tous les jours. On sait très bien aujourd'hui que les cardiologues, beaucoup de gens, ils disent que celui qui mange trop de viande, il peut augmenter ses problèmes cardiaques, c'est-à-dire qu'il peut avoir plus de problèmes. Donc pourquoi on ne prévient pas et on fait la médecine préventive? Vous savez que la médecine préventive, c'est l'alimentation, c'est le premier vecteur. Donc vous voyez comment tout est lié finalement.
Puis au fond, le surcoût est finalement un peu relatif, puisque ça va de 10 à 15%, c'est ça
Oui, enfin, parfois on parle de 10 centimes ou 20 centimes de plus par repas. Faut pas, enfin, je suis d'accord qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans des situations difficiles, mais après la mairie peut aussi décider, moi, les enfants de mes concitoyens, c'est quelque chose d'important, la santé de demain, c'est quelque chose d'important. Ça, je le prends en charge plutôt que de recouvrir le vélodrome.
Bon, on va faire là-dessus une petite pause musicale pour vous retrouver tout à l'heure pour continuer la discussion sur les cantines bio. Merci.
On se moque du tir comme du quart. Le monde se fout du monde car. Si l'on s'arrête 5 minutes, on voit sous la cocotte minute. Le feu affrontera la pression, la fin tenant à un bouton, sur le fil de la dissuasion, encore une belle idée béton, on fait pousser des champignons, dans les caves de l'oncle Dom Tom. Gentil, gentil, les autochtones, pour prendre bien un bout d'atome. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Qu'un petit crime se commette là-bas à l'ombre d'une comète, parce qu'une bande de Vénusiens dans un bal en sont venus aux mains. Et aussi sec, notre petite planète est au jus au courant du fait, par la lorgnette des caméras, prête à mater tous les coups bas, tandis qu'en bas de chez toi, de chez vous, de chez nous, de chez moi, quelqu'un tout seul de faim, de froid, est mort en se bouffant les doigts. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Des têtes à claque portant calotte, clame à bas la capote, puis se frober au sien du sexe, qui mettent l'IVG à l'index, eux qui de la vie ne connaissent que les balivernes des livres de messe. Un doigt de la crima Christi, un autre dans l'Opus Dei. Et si l'amour peut rendre aveugle, il rend sourd ces fous qui beuglent, ces onanistes consacrés,
d'eux aussi il faut se protéger. Où va-t-on? Ah, ah, je ne sais pas, mais on y va. Qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Et comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit.
Bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent sur Radio Grenouille pour l'émission Écoforum. Alors aujourd'hui, on est en train de parler de cantine bio en présence de Martine et de Thomas et aussi du président d'Écoforum, Victor Hugo. Alors, on était en train un petit peu de parler des problèmes qui se posaient au développement des cantines, enfin au changement des cantines, du moins de l'organisation des cantines pour de meilleurs services finalement, puisqu'on est quand même à un moment crucial, puisqu'il va y avoir le renouvellement du contrat de la délégation de services publics. Donc je voulais un petit peu revenir sur la manière dont on parlait du surcoût il y a quelques minutes. Je voulais revenir un petit peu sur la manière dont on pouvait le maîtriser finalement. On l'a déjà un petit peu abordé, mais est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu quelques moyens qui sont à notre disposition pour le maîtriser?
Oui, donc ce qu'on a vu, le coût d'un repas aujourd'hui qui est autour de 3,60, 3,70 à Marseille, enfin c'est ce que la ville paye aux prestataires. Ce prix-là, il inclut donc dans les contrats actuels le remboursement des deux cuisines centrales qui ont été construites par les prestataires il y a 17 ans. Donc ce remboursement étant réalisé à ce jour, il y a la possibilité pour la mairie de mettre cette part de financement dans une amélioration qualitative des produits. Après, ce qu'on a vu, c'est aussi les composantes, les cinq composantes qui constituent le menu. On peut revoir un peu la répartition, les quantités de protéines animales, on peut revoir les quantités tout simplement, et puis on a vu aussi sur l'approvisionnement en local et sur les coûts en moins que ça pourrait générer. Donc il y a vraiment moyen de...
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une possibilité d'éviter les intermédiaires un petit peu en s'adressant...
Le fonctionnement, vu que la mairie délègue à des sociétés privées, après c'est elles qui ont la responsabilité de cet approvisionnement. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident d'imposer un système d'approvisionnement. Donc après les intermédiaires, ils existent. Après il y a des grosses sociétés qui sont fournisseurs de ce type de structure.
C'est vrai que certaines villes ont décidé de revenir en gestion directe après avoir un système de délégation de services publics. Aujourd'hui, à Marseille, on ne se pose pas la question. On n'est pas du tout là-dedans. On en est encore loin. Donc déjà, on pourrait aussi se poser la question, effectivement, de diminuer un peu la durée du cahier des charges, enfin, la durée du contrat pour pouvoir
quand même,
avancer.
Je rappelle pour nos auditeurs qui est quand même de 7 ans.
Voilà, donc même si aujourd'hui, vous n'avez pas d'enfant, peut-être demain, vous en aurez et vous serez concerné. aussi, de revoir, est-ce que c'est intéressant d'avoir justement que deux partie dans cet appel d'offres et pas de le scinder en 5, 6, 7 parties pour pouvoir avoir des plus petits marchés.
Toutes ces questions, on les a posées il y a un an à la ville. On les a interpellées là-dessus justement pour voir est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir plusieurs cuisines centrales justement pour avoir des marchés plus petits et pour s'approvisionner de manière plus locale, d'avoir moins d'intermédiaires, de réduire le contrat aussi, peut-être 4 ans ou la durée de 7 ans. C'est vrai que jusqu'en 2018, ça fait loin.
Ça fait loin.
Donc voilà, tout ça, ces questions, on les a posées, on a interpellé, mais voilà, la réponse a été on a un système, on continue dans ce système.
Et si vous permettez, juste pour dire quelque chose qui est quand même là, l'homme politique, des fois, il a peur tout ce qui peut causer des problèmes. En deux mots, je m'explique. Ça veut dire que si un repas est mauvais, un seul repas de tous les repas est mauvais, l'homme politique, il serait filmé dans tous les télés comme l'homme qui a fait des repas mauvais. Donc, il a tellement peur qu'il préfère déléguer. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, une fois que vous avez délégué, vous avez un problème de marge. Ces sociétés privées, ils veulent gagner des fric. Pour gagner des fric, il n'y a pas 36 solutions. Il est sacrifié quelque chose. Donc, si on a une marge, il y a des conditions. Cette marge, pour qu'elle soit la plus large possible, il faut que les tomates, il faut que les choses qui viennent de loin, on les achète les moins chères possible. C'est évident pour avoir des marges. Et c'est là qu'il vient la question, justement, d'une traçabilité, de regarder bien d'où vient le produit. Quand je vois, et j'aimerais bien, si c'est possible, qu'on parle un peu de l'assiette, parce que quand je vois des tomates, par exemple, les tomates dans toutes les cantines, j'aimerais bien savoir d'où viennent ces tomates. Si ces tomates qui viennent, ils viennent de l'autre bout de la terre, c'est mauvais de tout point de vue, du point de vue français, du point de vue de la délocalisation, du point de vue de plein de choses. Et c'est mauvais aussi pour nos enfants parce qu'ils sont mis soit l'irradiation ou soit ils sont mis des conservateurs. Ici, les parents, ils savent ça. Ça, c'est 10 fois pire de quel prix. Donc, je peux vous dire une chose. Si on arrive à faire la traçabilité et la transparence comme on l'avait demandé, je pense que déjà, on avancera beaucoup.
Alors ben justement, parlons du contenu de l'assiette. Est-ce que c'est, enfin, comment on s'organise quand on passe d'une cantine normale à une cantine bio finalement ? Il existe des produits en bio qui permettent de faciliter l'arrivée dans les cantines et le fait de nourrir en grand nombre quoi des enfants ou...
Oui, déjà, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les prestataires, en tout cas dans le système donc, qui est retenu par la ville de Marseille, les prestataires savent faire, quoi. Hein, ils le font dans d'autres villes, donc ils savent s'approvisionner en produits bio notamment. Il existe des filières, donc après, ils font appel à ces filières. Il faut que ce soit progressif, quoi. Hein, on peut pas, vu la quantité de repas, on peut pas dire... On va passer 100% bio du jour au lendemain. Il faut vraiment que ce soit progressif. Moi, je pense qu'il faut
qu'on
aussi...
On ajoute petit à petit des
petit
aliments...
Petit. Et puis, il faut travailler par composante. On peut dire, c'est quelques légumes qu'on va essayer de développer.
Il faut que ce soit régulier. Enfin, c'est pas... On fait pas un repas bio comme ça, une fois, un événementiel. Parce que là, il n'y a aucun soutien aux agriculteurs. Il faut trouver des ingrédients qu'on va aller chercher chez des agriculteurs qu'on ne connaît pas. C'est plus, on commence par introduire du pain, on commence par introduire, du fromage ou tel légume. Et au fur et à mesure...
De manière plus régulière.
Ouais. Parce que c'est ça qui fait qu'on soutient réellement.
Ce que j'aime bien aussi, si vous voulez, c'est juste pour ce que j'aime bien, la notion, si vous voulez, de ces nouveaux collectifs, parce que des fois, quand on va dire collectif bio, c'est pas pour critiquer, moi je suis pour les bio, mais ce que je trouve très intéressant de votre nouvelle notion, quand vous mettez « changeons la cantine », vous savez qu'on n'est pas dans l'opposition systématique, on est sur un changement. Si déjà on achetait des produits locaux, déjà... Il y a moins de conservateurs que de produits qui viennent de 12 000 km d'ici. Donc déjà, on est moins intoxiqué, on va dire. Donc vous voyez, changeons la cantine. Des fois, on peut avoir un processus tel qu'on peut évoluer vers des bio. Mais le bio doit être une obligation dans un certain pourcentage. Une obligation. Parce que si on dit, faites ce que vous pouvez, comme vous l'avez dit dans les contrats, on ne fait rien du tout. Il faut imposer.
Ou quand on parle d'agriculture raisonnée, pareil, il n'y a aucun critère qui dit qu'est-ce que c'est qu'une agriculture raisonnée. C'était aussi dans le cahier des charges. Donc c'est d'avoir un objectif d'agriculture naturelle, d'alimentation naturelle, et après d'y aller petit à petit. C'est ça qui est intéressant. Et il faut savoir que par exemple, Sodexo a la volonté de devenir partenaire de la campagne Oui au bio dans ma cantine. Donc ça veut dire quand
qui
même...
Qui est lancée par WWF.
Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont cette volonté. Après, il faut aussi qu'ils le transforment dans les actes. C'est vrai que la mairie, elle est responsable puisque c'est elle qui passe commande. Après,
et c'est elle qui fait le choix.
C'est elle qui fait le choix. Mais après, vu l'importance des deux prestataires, eux aussi, ils auraient pu depuis un moment dire...
Ils ont leur rôle à jouer.
Voilà, moi je ne peux pas faire moins que bien. Si je crois que c'est le bio dans la cantine qui est bien, eh bien je vais travailler avec la mairie ou même avec l'autre prestataire pour dire, voilà, on va se garantir un certain niveau de qualité et on va avancer ensemble. Là, aujourd'hui, chacun s'abrite en disant, il n'y a pas assez d'offres.
Les pires que vous venez de dire sont Sodexo. Avec le niveau qu'il a, il sait très bien faire des cantines bio. il sait le faire. Il y a le savoir-faire. Mais il ne le fait pas à Marseille. Donc, comme il a le savoir-faire, c'est quand même assez étonnant. Les sociétés qui ne se mettent pas à l'ordre du jour, ils sont destinés à disparaître et être remplacés par d'autres. Donc, beaucoup de fois, ce que tu viens de dire, ce n'est pas l'homme politique qui a changé les choses. Beaucoup de fois, c'est les mêmes sociétés qui savent que l'opinion publique et que la mouvance est telle que s'ils ne changent pas, ils risquent de perdre le marché. Hein.
Voilà, et puis ils ont aussi leur conscience, enfin, quelque part.
Non, mais c'est ça qui était décevant dans le cahier des charges, c'est qu'il n'y a aucun minimum exigé, ni justement cette notion d'évolutivité en termes de produits, en fixant un minimum de 10% ou de 20% ou un échelonnement sur les 7 ans. La mairie, là, ce qu'elle a mis dans son cahier des charges, c'est faites-nous des propositions. Elle a demandé aux sociétés de faire des propositions. Donc, sociétés, a priori, vont faire des propositions, mais nous, on s'interroge un peu sur le critère final qui permettra de retenir les offres. Est-ce que ce sera le prix parce que quand on a différentes propositions avec en base zéro bio ou zéro exigence, forcément, ce qui est proposé en plus, c'est un surcoût. Quel sera le critère final pour le choix du contrat pour les 7 ans à venir?
Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'acceptation, en fait, du changement de cantine par, les parents, par les enfants. Est-ce que vous avez l'impression que dans les cas que vous avez sûrement vus dans d'autres villes, est-ce que vous avez l'impression que les familles ont été sensibilisées via leurs enfants qui bénéficiaient d'une cantine bio?
Peut-être, je vais dire une chose pour compléter, pour répondre un peu à la question, que c'est vrai que c'est un peu difficile, mais nous, on connaît un peu la musique parce qu'on travaille beaucoup dans l'éducation, et c'est plus, comme je dis, c'est un problème de qualité. Si un beau jour, moi-même, ils m'ont donné à goûter un plat bio mal préparé, que je ne suis pas bio, évidemment, je vais le rejeter et je ne pourrai plus manger. Mais si quelqu'un me fait un plat bio avec bien, et je vais avoir un bon goût pour moi, évidemment, je vais aller dans ce sens. Les enfants, c'est la même chose. Donc ça, c'est très important. Mais juste pour vous dire, justement, et après, il y a un problème d'éducation. Mais juste comme on parle d'alimentation, je vais me rappeler quelque chose que j'avais vu depuis à peu près 15 ans, mais j'ai resté sidéré. On a donné des repas aux enfants. On a donné des repas à une vingtaine d'enfants, totalement différents. Anne, il a eu un haricot, l'autre avait plein de choses. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partagés tout de suite. Ils ont fait les mêmes tests, si vous voulez, donc il y a eu la solidarité. Ils ont même fait le test un peu plus grand, avec 14-15 ans, et personne n'a donné rien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'âge qu'il faut pour travailler ce type de changement, c'est l'âge de l'école. L'école, c'est la base du changement et c'est une efficacité incroyable. Et si on rate ça, on est en train de rater beaucoup de choses dans l'avenir. C'est pour ça que je pense qu'il faut mettre les moyens. Aujourd'hui, on est prêt à aller, donc il n'y aura pas trop de réticence, mais il faut le faire d'une façon assez intéressante. Il faut le faire aussi avec une obligation d'achat des produits locaux. Ça, c'est quand même pas bio, mais bio locaux aussi.
Est-ce que c'est aussi important pour vous que, justement, qu'on s'intéresse aux enfants vraiment petits plutôt qu'à n'importe quel autre public?
Oui, enfin là, c'est vrai que ça concerne les écoles primaires et maternelles aujourd'hui. Et c'est là quand même que le développement du corps se fait beaucoup. Donc, c'est super important de commencer par là. Et aussi, en matière d'éducation, d'expliquer aux enfants, voilà, il y a des produits qui sont locaux, qui ne poussent pas ailleurs, qui sont plus dans le sud ou plus dans le nord, il y a des saisons. Donc de leur expliquer ça, peut-être aussi de leur faire rencontrer des agriculteurs de la région pour qu'ils sachent qui produit, comment, d'où vient un fruit, un légume. Enfin,
donc finalement,
c'est pas juste une boîte.
Voilà, ce ne serait pas juste comme ça, passer sans finalement leur expliquer quoi
non,
que ce soit.
Je pense qu'il y a un accompagnement à faire. C'est sûr que l'éducation au goût, l'éducation à... qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des enfants, enfin là, comme on parle des tout-petits, qui ne connaissent pas forcément tel ou tel légume. Enfin, pour eux, quand on achète des surgelés ou des produits déjà fabriqués, on ne sait plus la forme originale du légume. Et c'est vrai qu'il y a... il y a eu quelques émissions avec Cyril Lignac, là, qui est intervenu dans des écoles avec des cantinières et tout. Voilà, ça paraît un peu folklorique, mais on voit qu'ils présentent des légumes, après ils les préparent simplement, et puis les enfants mangent. Enfin, je veux dire, donc là, c'est vraiment la preuve que ça peut fonctionner, quoi. Hein. Donc, il y a vraiment une éducation, un accompagnement à faire. Alors, c'est aussi le rôle de l'école, quoi. Hein. Donc, il y a le temps de la cantine entre midi et deux, mais il faut aussi impliquer, je pense, le corps enseignant, les maîtresses, les maîtres, voilà, qui peuvent parler de tout ça à d'autres moments de la journée pour sensibiliser les enfants. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est une approche globale et c'est important que ça se fasse chez les tout-petits, quoi.
Enfin, à titre personnel, moi, il y a 20 ans, je ne savais pas non plus à quoi ressemblait un oignon qu'il fallait aller. Enfin, je suis allée dans une ferme pour cueillir des oignons. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. On cherchait dans les allées. J'achetais tous mes légumes au supermarché qui étaient emballés et je ne me posais aucune question de provenance, de qualité, etc. De saisonnalité. Moi, je ne connaissais pas du tout la saisonnalité des fruits et légumes. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage d'être passée à côté de ça. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment quelque chose que l'école doit expliquer, d'autant plus aujourd'hui.
Puis des goûts différents, enfin c'est quand même.
Ben là, il
n'y
a pas une
de...
tomate, il y a des centaines de tomates qui existent.
Mais en même temps, on voit qu'aujourd'hui, les grandes sociétés multinationales, ils veulent que les tomates soient les plus carrées possibles et qu'ils deviennent presque carrées si on pourrait mettre les OGM. Comme ça, on met plus dans les boîtes et on peut transporter plus. Donc, on est dans une société qui, en même temps, est en train de nous montrer, si vous voulez, le mauvais exemple. Et c'est vrai que je pense que la notion même. Tout est lié, si vous voulez. Si l'enfant, aujourd'hui, il commence à comprendre ces contextes, il commence à voir ça, il va avoir plus de respect pour les choses, il va comprendre mieux pourquoi il ne doit pas manger des fraises qui viennent avec plein de produits toxiques, de même pas loin d'ici, hein. Il vient irradier tout ça. Tout ça, si vous voulez, si on met la traçabilité, d'ailleurs, c'est une obligation. Quand vous allez en supermarché, on doit mettre les traitements et on doit mettre de l'origine. Aujourd'hui, on met que l'origine, le traitement, on l'oublie un peu parce qu'il est marqué dans les produits. Mais quand vous avez dans les cantines bio les traitements et l'origine, je pense qu'on peut avoir des gros, des grosses surprises.
Mais donc, moi, je connaissais l'exemple d'une élue, mais vers Montpellier, qui, quand elle a commencé à s'occuper du sujet des cantines, a découvert que les enfants, c'était à la crèche, mangeaient des lapins importés de Chine. Donc, qu'est-ce qui pouvait justifier d'importer des lapins de Chine? Donc, elle a éliminé ça. Après, elle a demandé à éliminer les conservateurs, les additifs. Et au final, que... elle s'est débarrassée comme ça des prestataires qui, à un
excellent
moment, ne pouvaient plus répondre à ça.
À la demande.
Et elle a réussi à... Bon, c'était une petite ville. Et elle a réussi à faire un partenariat avec une agricultrice locale.
Ouais, même dans le cahier des charges actuel de la ville de Marseille, on voit encore... moutons, provenance Australie ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas...
C'est pas un cas particulier.
Ah non, c'est pas un cas particulier. Et voilà, donc des moutons, enfin, je sais pas, Sisteron, tout ça, on a une région où l'élevage est important.
Je peux vous dire que la révolution, je crois qu'il doit commencer par nos assiettes. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a le docteur Boukopsa, qui est le coordinateur du comité médical Écoforum, ils nous disent qu'il y a beaucoup de cancers, qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on est en train de faire d'une façon chronique. Ils sont à partir de l'assiette. Même aujourd'hui, le problème de l'obésité qui coûte très cher à la sécurité sociale, l'obésité, c'est à cause de que des gens, ils veulent, les gens les plus pauvres, on met dans nos assiettes des trucs un peu mélangés. On nous propose un steak, mais au fond, il y a 10% de steak, le reste, c'est dégueulasse. Donc, je pense que si on commence à se réveiller par l'alimentation, je pense que c'est très important. C'est pour ça que ce thème de la cantine, je suis content d'être là avec vous. Parce que
c'est très
vraiment,
important parce que
vraiment,
ça
je pense
peut...
que nous, on va faire quelque chose. Écoforum va faire quelque chose parce que je pense que depuis 2 ans que je commence à avoir une certaine vision sur ce problème-là, et je pense que c'est très, très, très grave. Et c'est tellement lié à tout que je pense qu'il faut partir par là.
Ouais, ça a de l'impact finalement sur beaucoup de secteurs autour.
Regardez,
quoi, hein, l'agriculture, l'industrie.
Tout le monde nous dit que nos enfants actuellement, les eaux d'un être humain aujourd'hui, c'est pas les eaux d'avant. Ça veut dire qu'on se casse plus rapidement. Et les enfants qui naissent aujourd'hui, c'est pas les mêmes enfants qui naissaient avant au niveau qualité des eaux. Déjà que ça, si on ne se pose pas des questions, qu'est-ce qui est en train de passer au niveau de la bioaccumulation, au niveau de notre alimentation, on est en train de passer à côté.
Et puis c'est peut-être aussi un enjeu important quand on pense qu'on est dans un contexte où il y a quand même pas mal de problèmes de santé publique importants avec la vache folle, les OGM, enfin les pesticides, ce qui pose des problèmes de santé maintenant, des agriculteurs qui tombent malades des pesticides. Donc
enfin, ils tombaient malades avant, mais ils n'étaient pas reconnus.
Voilà,
comme
ils n'étaient pas reconnus.
Maladie professionnelle, maintenant c'est...
Et sans compter qu'on n'a pas parlé, on n'a pas parlé du tout d'un thème qui fait froid au dos, c'est la irradiation des aliments. C'est la ionisation des aliments. Il y a 200 centrales dans le monde dans lesquelles on envoie tout type de produits. Et ces produits, si vous voulez, on les envoie des ions qui permettent de détruire toutes les matières vivantes qu'il y a à l'intérieur de ces produits, d'une pomme, par exemple, pour qu'on ne la laisse pas pourrir. Ça veut dire qu'en deux mots, il y a certains produits qui arrivent dans nos assiettes qui sont déjà presque morts, justement à cause de cette ionisation. Et c'est quand même... Là aussi, il faut parler de ça un jour.
Il y a des cahiers des charges qui l'interdisent, hein, d'ailleurs. Pas celui de Marseille.
Déjà, il faut régler une étiquette dans les produits.
Oui, voilà. Ben, moi, je voudrais quand même, vu qu'il nous reste très peu de temps d'émission, je voudrais quand même que vous nous expliquiez un petit peu comment on peut faire pour vous soutenir, pour les parents qui nous ont écoutés, pour vous aider.
Ou
est-ce
contacter.
Que vous avez un site internet?
C'est pas pour nous soutenir, c'est pour soutenir les enfants. C'est soutenir les enfants.
Oui, voilà.
Mais c'est nous apporter de l'aide, parce qu'on est aussi que des parents, effectivement.
Bien sûr, oui, c'est ça que je...
Donc, il y a deux blogs qui existent, mais il y en a un qui est spécifique sur la ville de Marseille, donc qui s'appelle cantinemarseille.canalblog.com. De toute façon, vous cherchez Cantine Marseille, vous tomberez dessus, sur celui-là ou sur celui qui est Cantine Bio Marseille, blogspot.com. Il y a aussi un groupe Facebook, parce qu'il faut travailler avec son temps, et que Facebook, ça permet de fédérer des gens et de montrer qu'il y a des gens qui s'intéressent à un sujet. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de gens qui se sont déclarés, mais parce que les gens ne le savent pas forcément. Donc il y a un groupe Facebook Cantine Seine Marseille. Il y a aussi un groupe Yahoo pour échanger des informations, pour s'informer, pour poser des questions. Donc tout ça, c'est cité sur le blog, donc il n'y a aucun souci pour ça. Et nos futures actions, déjà, cette semaine, on a commencé à demander, à faire des courriers.
Aux délégués des parents d'élèves
On est délégués souvent aux parents d'élèves,
oui.
Mais à faire des courriers pour demander à participer à un repas des enfants.
À voir comment ça se passe dans les cantines.
Donc c'est pareil, il y a un courrier qui est mis en ligne, un courrier modèle avec l'adresse, etc. Donc tous les parents peuvent aller se connecter et trouver cette adresse à la personne à qui il faut adresser le courrier et le demander, parce que plus il y aura de personnes qui le demanderont, plus ça aura un impact. Ensuite, on mettra aussi certainement en ligne une lettre type pour demander justement des informations sur la traçabilité, sur les composants, les ingrédients des plats. Donc ça, c'est pareil. Après, c'est à chaque fois à renvoyer aux personnes concernées pour obtenir ces informations. Il faut que ça se fasse en masse pour faire avancer les choses. Après, on va aussi... je te laisse parler, Thomas. Interpeller...
On va continuer donc d'interpeller les élus de la ville, hein, donc comme je disais tout à l'heure avec la FCPE, la PEP, CSF. Donc là aussi, s'il y a des parents qui sont dans ces structures, qui sont adhérents ou membres actifs, voilà, on peut être aussi leur relais pour leur donner des informations, pour leur dire voilà tout ce que nous on a appris récemment. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un peu urgence, hein, puisqu'il n'y a plus que 3 mois, là, comme on le disait tout à l'heure, pour essayer de convaincre nos élus qu'il faut aller de l'avant pour à la fois la santé de nos enfants, d'une agriculture locale. Voilà. Donc il faut agir maintenant. On n'a plus beaucoup de temps. Sinon, après, on en prend pour 7 ans et on continue dans le système actuel sans amélioration forte qualitative. Quoi. Donc on a besoin de vos contacts sur les blogs qu'on a cités. Il y a des mails, donc on peut échanger, et voilà, tous les soutiens sont bons. Et
Voilà, et est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour terminer un petit peu, pourquoi vous avez eu envie de faire ça, qu'est-ce qui vous a motivé à... Quel moustique vous a piqué finalement?
Moi, c'est vrai qu'avant, j'habitais Paris, et donc comme je vous disais, je consommais n'importe quoi, n'importe comment, etc. Quand je suis arrivée dans la région PACA, j'ai commencé à vraiment comprendre qu'il y avait des agriculteurs là, aux portes de la ville, qui étaient en train de mourir, de fermer, et que moi, je consommais n'importe quoi, n'importe comment. Donc, je me suis sentie responsable. J'ai dit, non, je ne veux pas donner mon argent n'importe comment. Donc, je veux le donner à des agriculteurs locaux. Donc, j'ai trouvé un moyen de m'approvisionner en légumes, fruits, viande, fromage locaux et bio, ou en cours de conversion. Et au fur et à mesure où on avance, on s'est dit, donc moi je mange comme ça, mais à la cantine, ma fille, elle va manger comme ça. Enfin, j'avais pas encore de fille quand j'ai commencé à m'en occuper. Mais non, parce que c'est un sujet, le développement durable qui me tient à cœur. Mmh. Et puis après, forcément, quand vous avez un enfant, vous dites, attention, mais elle va manger quoi
Et en changeant d'alimentation vous-même, vous avez remarqué un changement
en tout cas, un changement philosophique, psychologique où, où je suis.
Et Thomas, alors, pour vous ?
Oui, c'est un peu pareil. En s'informant, en voyant l'impact un peu de la globalisation, de tout le système, de l'alimentation, on a envie de choses plus locales, qui peuvent avoir moins d'impact sur la santé. Donc voilà, c'est une pratique que nous, on a dans notre famille et on souhaite que ça se passe... Que tous les enfants puissent en bénéficier le maximum.
Bon, merci en tout cas à vous deux. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était un plaisir de vous recevoir, surtout sur une problématique aussi importante. Et je vous dis à bientôt sur l'émission Écoforum.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Je descends mon 4x4, je descends mon 4x4. L'incinération, c'est bon pour les poumons.
Réchauffement climatique, c'est vrai. Et après, le soleil va taper plus fort.
C'est un jour.